Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Patrick Béja. Avant d'être lui-même daron, Patrick a été un peu le daron des podcasts français, puisqu'il a créé sa toute première émission de podcast en 2006. Il vit aujourd'hui en Finlande, son pays d'adoption, et est l'un des rares podcasteurs français indépendants à réussir à vivre de sa passion en s'appuyant uniquement sur le soutien financier de ses auditeurs et de ses auditrices. Pour revenir à ce qui nous intéresse, la daronnerie bien sûr, Patrick est papa d'un petit garçon qui a presque 2 ans, et il nous raconte dans cet épisode son cheminement vers la paternité. Comme il le dit lui-même, ni Patrick ni sa femme n'avaient vraiment la fibre parentale et ils ont attendu plusieurs années avant d'avoir leur premier enfant. Et lui avait une bonne quarantaine d'années au moment de la naissance de son fils. Il raconte également la première année en compagnon de leur fiston qui a été très très compliqué à vivre pour eux. Je le laisse expliquer lui-même avec ses mots, mais sachant que ça commence par « je l'adore, mais 3 petits points ». Un immense merci à Patrick d'avoir partagé son histoire, très libératrice et très déculpabilisante pour les parents qui ont des rapports compliqués avec leur nouveau-né. On parle aussi de double culture, enfin vous verrez, cette interview est très riche. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple sur Apple Podcasts sur iPhone ou sur Podcast Addict sur Android. Vous pourrez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. Et c'est nouveau, mais j'attends vos commentaires sur cet épisode sur www.daron.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Patrick. On est avec Patrick Béja. Salut Patrick.
Salut, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, très en forme, comme toujours.
Patrick, est-ce que ça te chagrine si je dis que t'es un peu le daron des podcasts en France?
Chagrine, non, je sais pas si c'est justifié. Il y a plein de gens qui font des podcasts et qui en font depuis longtemps, mais ça me fait plaisir, on va dire.
T'en fais toujours? Parce qu'il y a plein de gens qui en ont fait beaucoup naguère et qui ont peut-être arrêté entre-temps.
C'est possible, oui, c'est vrai. Oui, oui, moi, c'est un truc qui m'a propulsé, je veux dire, comme qui m'a donné de l'énergie, l'amour du podcast, et ça m'a donné force de continuer parce que c'était un truc qui me passionnait dès le départ. Donc.
Alors, dis-moi si je me trompe, mais tu as lancé tes podcasts, ton podcast en 2004.
Donc, c'est 2006.
2006,
presque.
Ok. À l'époque, donc, où vraiment les podcasts n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est devenu un truc que vous avez plus, en tout cas, vous avez a priori tous dans votre téléphone. À l'époque, le podcast avait été inventé, en tout cas, démocratisé par la sortie de l'iPod, si je me trompe pas.
C'est ça.
Par Apple.
Ouais,
c'est fait partie de cette
génération de podcasteurs. Oui, oui. Moi, quand j'ai commencé, un podcast, c'était un truc qu'il fallait télécharger et synchroniser à son iPod par iTunes. Donc, tu vois, c'était quelque chose.
Oui, il n'y avait pas de 4G, ma petite dame.
Exactement, exactement. mais oui, donc c'était vraiment les gens qui étaient qui avaient une certaine connaissance technique d'une part, puis qui étaient super passionnés à l'époque. Et puis, heureusement, au cours des années, ça s'est étendu. Ouais.
Donc, l'une de tes particularités, c'est que tu as effectivement, comme je disais tout à l'heure, continué, que tu n'as pas arrêté entre-temps. Mmh. Et en fait, surtout que tu en as fait ton activité professionnelle aujourd'hui. Tu as carrément une boîte en fait, que tu fais vivre grâce à tes podcasts. Quoi. Donc bravo, c'est cool.
Ouais, bah merci. Je crois que les deux sont un petit peu liés d'une certaine manière. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il y a dans certaines catégorie de podcast, des gens qui sont un petit peu fiers du statut amateur de podcast, ce qui est très bien, mais je pensais, là, c'est l'anniversaire des 5 ans d'une de mes émissions, 10 ans d'une autre émission. Ouais, n'est-ce pas? Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que cette émission existe depuis tellement longtemps? Et au-delà du fait que ça soit professionnel et que ça ramène de l'argent, je crois qu'il y a une mentalité de se dire, ben, je le fais comme un métier. Et je crois que c'est quelque chose qui est pas évident et les gens se rendent pas forcément compte quand ils écoutent. Si on n'a pas cette niaque et cette contrepartie aussi, peut-être qu'au bout de 3 ans, 4 ans, c'est dur, hein, c'est long quand même. Et ça demande tellement de travail que les gens peut-être s'arrêtent plus facilement Mais bon, je sais pas, c'est des réflexions qui me passent par la tête.
Alors, t'as plusieurs émissions, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast pour que vous puissiez découvrir l'univers de Patrick. Ça tourne plutôt autour de la tech, du jeu vidéo, de la culture d'une manière générale, c'est ta grande passion quoi.
Ouais, la tech et les jeux vidéo, c'est mes deux grandes passions. Il y a d'autres choses, mais c'est en anglais aussi, je parle, ça peut être surprenant, mais de politique internationale, de ce genre de choses, mais pas en français. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps quoi, il y a juste trop de projets.
Ok. Donc oui, effectivement, ça s'appelle, enfin ta boîte, en tout cas ta galaxie de podcast s'appelle Friendspin, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Voilà, je vous mettrai tous les liens si vous voulez découvrir l'univers de Patrick. On est ici pour parler de Daron. Je voudrais remercier Damien qui m'a envoyé un message il y a un an et quelques, juste avant que je t'envoie un message, et qui m'a dit tu devrais aller interviewer Patrick parce que il a été papa depuis pas très longtemps et que je pense que vous avez sans doute plein de choses à dire. C'est vrai que moi, je te suivais pas sur Twitter, je regardais de loin un petit peu tes émissions et j'ai découvert qu'en fait, tu mettais un peu en scène en fait, ton quotidien de jeune papa. Et je me suis dit, allez, Patrick, l'une des spécificités, c'est que tu vis aujourd'hui en Finlande et donc on a mis un peu de temps à se trouver, quoi.
C'est ça, oui. Sur le fait de mettre en scène, je dirais, c'est pas que je mets en scène, c'est que j'en parle publiquement. Voilà. Ouais, tout à fait. Et oui, je suis en Finlande et donc on s'était connecté il y a un moment et bon, ça s'était pas fait. Mais je crois que c'est pas plus mal parce que je pense que mon témoignage aurait été très très différent il y a un an ou un an et demi, tu vois, qu'aujourd'hui, parce que l'expérience s'est transformée de manière radicale. Et aujourd'hui, je pense que ça sera, je sais pas si ça sera plus ou moins intéressant, mais ça sera plus serein, on va dire.
Donc t'as un garçon, c'est ça ?
Ouais, un petit garçon qui a maintenant 20 mois.
D'où la sérénité retrouvée, peut-être ?
Bah oui, le début a été hyper difficile. Je sais pas si tu veux te lancer dans récits tout de suite, mais
on va le faire après.
C'était
mais
dur, ouais.
Ok. D'où te vient cette envie de parentalité ? D'où te vient ? Est-ce que t'as toujours eu l'envie d'être père, toi, de ton côté ?
Je sais pas si j'en avais vraiment envie. Je veux pas tomber dans la caricature de c'est la femme qui voulait et donc je crois que j'aurais pu. J'avais une image dans ma tête de quand je serai grand, quand je serai vieux, de ma vie avec une femme. Il se trouve que je l'ai trouvée, donc c'est cool. J'avais pas forcément l'image des enfants qui venaient avec. Je crois que j'aurais pu être heureux avec ou sans. Je me disais quand même que quelque part, quand je m'imaginais beaucoup plus âgé, parce que maintenant je suis encore jeune et fringant, ça serait quand même sympa d'avoir des enfants pour partager ma vie et qu'ils puissent faire partie de mon quotidien. Je ne doute pas que comme tous les enfants de la Terre, ils seront ingrats et qu'ils ne comprendront pas l'amour de leurs parents avant, je sais pas, leurs 20 ou 25 ans.
Souvent, ça vient avec le fait d'être parent aussi, mais bon.
Possible. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai compris énormément de choses, comme tous les parents, quand j'ai eu un enfant. Et d'une certaine manière, c'est encore un peu cliché, mais les sacrifices que font tes parents pour toi... Et c'est un truc qu'on peut pas comprendre avant de l'avoir expérimenté.
Mais je pense que les clichés, ils viennent toujours d'une vérité, hein, tu vois.
Oui, c'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Mais donc oui, je me voyais pas forcément avec des enfants, mais on va dire plutôt oui, mais pas obligatoire. Et puis ma femme voulait des enfants, et je me suis dit ok, allons-y, ça va être sympa, on va se lancer.
Vous êtes rencontrés quand avec ta compagne ?
On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. C'était moi, j'ai 46 ans aujourd'hui, donc j'étais déjà relativement âgé à l'époque.
T'avais 36 ans,
voilà. Et elle a 10 ans de moins, par contre. Donc, je suis allé me trouver une jeune nordique blonde, tu vois. Grande blonde et forte. et oui, donc on s'est rencontrés il y a 10 ans.
Effectivement, vous avez attendu tout ce temps-là. Moi, l'une des questions que j'avais, c'était... effectivement, c'est un peu... Alors, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais le premier enfant, aujourd'hui, il est entre 30 et 32 ans en moyenne en France. Toi, tu as attendu presque 15 ans de plus. Comment ça se passe? Alors, tu vas me dire, peut-être tu sais pas, mais comment ça se passe d'avoir un enfant aujourd'hui à 46 ans? Ce qui est cool, c'est que la nature, déjà, nous permet en tant que mec de pouvoir faire des enfants à cet âge-là, alors que je pense que pour les femmes, ça devient de plus en
plus compliqué. C'est plus compliqué, quoi. C'est sûr. Même si aujourd'hui, effectivement, c'est possible, mais non, comment ça se passe? Je pense... ce que je dis à ma femme souvent, c'est... chérie, tu te rends pas compte ce que 10 ans de plus font à ta capacité de récupération, à ton énergie, à ton... Et c'est vrai que c'est certainement beaucoup plus dur que si je l'avais eu il y a 10 ans. Et déjà, il y a 10 ans, j'aurais eu 36 ans, c'était pas... Bon, j'avais 34 ans quand il est né, mais oui, c'est
avec,
pas
t'avais
évident.
T'avais 44, c'est ça?
Pardon, 44 ans, oui. 44 ans. Mais même elle se rend compte aujourd'hui, tu vois, elle était, elle a eu une jeunesse pleine de d'énergie et de boissons, on va dire. Et elle se rend compte aujourd'hui que, à 35 ans, elle a pas la même énergie qu'à 25. Donc elle comprend bien aussi que, elle imagine bien qu'à 45, ça sera plus tout à fait la même chose. En même temps, je regrette pas. On a fait, moi j'ai fait seul et on a fait ensemble énormément de choses qu'on n'aurait pas forcément pu faire si on avait eu un enfant. Et donc, j'ai un petit peu d'une certaine manière le sentiment que je regrette rien, tu vois. J'ai fait plein de choses, et ça veut pas dire que maintenant j'en ferai plus, mais on a fait plein de choses, on a vraiment profité de tout ça. Et donc, on était, quand on a pris la décision d'avoir un enfant, on était prêt. On se disait pas, ah, ben, je voudrais encore ceci, cela. On a dit non, on a fait plein de trucs et, donc, c'était le bon moment, je crois, ce qui est idéal pour tous les parents, quoi.
Ok. Comment s'est passée la grossesse?
La grossesse, très bien, pour ouais. Moi.
Moi, je m'intéresse du point de vue du daron, tu vois.
Oui, bah, pour moi, oui, très bien. J'étais tranquillou. En plus, elle est très forte, volontaire, machin. Donc, elle était pas du tout du genre, la grossesse s'est passée très bien pour elle aussi, tu vois. Oui. Il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de problème. Elle allait faire les courses jusqu'à quelques semaines avant. Donc non, ça c'est la grossesse, ça s'est très bien passé.
Ok. Et quid de l'accouchement alors?
Parce que c'est là que les choses se compliquent. L'accouchement a été compliqué. Le travail a duré un bon 24 heures.
Waouh.
C'est marrant parce que en Finlande, je sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais en Finlande, ils disent de manière très insistante aux parents, ne venez pas jusqu'à ce que vraiment, on a cette image de la perte des os,
ah oui.
Comme quoi c'est, ça y est, on perd les os, et vite, vite, attention, on va dans le taxi, faut pas qu'ils sortent dans le taxi.
C'est un photofilm, ça.
C'est ça, non, mais exactement. Et ben on sait pas avant de d'avoir eu l'expérience, soit soi-même, soit avec des amis, ou on sait pas que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bref, les hôpitaux finlandais te disent non, perdez les os, restez chez vous tranquillement parce que vous y êtes pas encore. Mais du moment du début du travail jusqu'à l'accouchement, il y a eu un bon 24 heures, dont au moins on est arrivé à l'hôpital en début de matinée. Et elle a accouché... mais c'était même plus que 24 heures. À l'hôpital, on a dû passer une bonne vingtaine d'heures.
Ok.
Et très difficile. Au début, elle se disait, je vais pas prendre de
péridurale.
Donc, elle a essayé au début avec juste le gaz. Et puis, au bout de 18 heures, tu vois, non, c'est plus possible. Okay.
Elle est épuisée, sans doute. Ouais.
Et ça s'est fini avec une césarienne. Pas d'urgence, mais enfin, qui était pas prévue, quoi. Donc ça c'était compliqué et puis moi j'étais donc je suis rentré dans la salle d'opération une fois que le petit était sorti on me l'a filé et puis on m'a renvoyé dans la chambre et ma femme est partie en salle de récupération tu vois et donc moi j'étais là avec le petit complètement déboussolé et puis j'ai pas forcément de très bonnes expériences avec les hôpitaux, donc j'avais une angoisse pour ma femme, quoi. Les infirmières venaient et me disaient comment ça se passe avec le petit, tout ça. Et à la limite, c'est presque je comprenais pas ce qui se passait avec le petit, c'était pas tellement important. Je leur disais oui, mais est-ce que je peux voir ma femme? Donc j'étais pas bien. Et puis.
Et comment t'as vécu aussi le fait qu'elle ait subi une césarienne comme ça de façon un peu urgente? J'imagine que pour toi, ça devait pas forcément être un
c'était,
truc cool, quoi.
C'était compliqué parce que elle était, en plus, on était dans un hôpital, donc finlandais, où il parlait, alors, suédois ou finnois, parce que la Finlande est bilingue.
Oui.
Et il parlait anglais avec moi. Donc au début, ça se passait très bien. Et puis au bout d'un moment, quand il a fallu être efficace et initier la césarienne, pardon, ça grince, les chaises sont vieilles. quand il a fallu faire la césarienne, ils sont passés aux Finnois. Et donc moi, j'ai pas compris grand-chose. J'ai compris qu'il fallait faire la césarienne, mais en 5 minutes, ils étaient partis. Et moi, j'étais seul dans la chambre à devoir me changer avec les vêtements pour aller dans la salle d'opération. Mais elle a disparu en 5 minutes, ma femme. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et bien sûr, c'est une opération standard, il n'y a aucun risque. Enfin, les risques sont minimes, etc. Mais on ne peut pas s'empêcher dans cette situation en particulier, après X temps d'attente. Moi, j'avais dormi un petit peu quand même, mais le stress, la peur, tout ça. Donc oui, ce n'était pas facile, quoi.
Oui, puis ce n'est pas parce que c'est une opération standard que ça ne crée pas des émotions chez toi, quoi.
Ouais.
Ok, donc... Et effectivement, est-ce que tu finis par la... J'imagine que tu finis par la retrouver au bout d'un moment.
Oui, bien sûr. Ils ont compris. Tu vois, normalement, le père ne va pas voir la femme avant ses 2 heures de récupération et puis elle est dans la chambre de... Mais ils ont compris. Ils se sont dit, bon, celui-là, je pense qu'il faut
le ménager.
C'est ça. Et donc, ils m'ont emmené la voir avec le petit et elle. Alors, pour elle, elle joue une confiance, pas aveugle, mais au système... finlandais en général, ils ont très confiance dans leurs institutions. Et donc, pour elle, une fois qu'elle était prise en charge pour la césarienne, tout allait bien. Et en plus, elle avait la péridurale, machin, les trucs de... Et quand je suis arrivé, elle était genre « Oh, salut ! Oh, comme il est mignon, machin !» Et puis elle le prend, c'était merveilleux que j'aille la voir, parce qu'elle pensait qu'on n'allait pas se voir avant encore quelques heures pour... Et donc, c'était une super... Elle, ça allait super bien. Elle était complètement... elle planait, tu vois. Et moi, j'étais content de la voir, bien sûr. Et puis, ça, à partir de là, ça a commencé à mieux se passer. Mais ensuite, donc, on est remonté dans la chambre où on allait être. Et il y a eu quelques jours vraiment compliqués parce qu'il y a eu une infection pour elle. Le petit... je te raconterai après, mais il avait sa personnalité, on va dire. On était dans une chambre partagée avec une autre personne. Bon, c'était pas les meilleurs moments de notre vie commune, on va dire. Malgré le bonheur d'avoir le petit, c'était dur.
Ok. Ça dure. Vous restez combien de temps alors dans cette dans l'hôpital en Finlande?
Normalement, c'est comme partout. Hein, ça peut durer même quelques heures. Ou une journée, mais là, étant donné qu'elle avait eu la césarienne et qu'il y a eu une petite infection, ça a duré quelques jours, 4-5 jours. 4-5 jours où elle était avec le petit et moi bien sûr j'y allais pendant la journée, je restais toute la journée, mais la nuit elle n'arrivait pas à dormir parce que le petit criait. Ouais, c'était quelques jours compliqués. Ouais.
C'est quoi tes premières impressions avec ton fils?
Je l'aime beaucoup, hein.
Disclaimer.
C'est ça.
Nota bene.
Mais je vais te raconter une anecdote. Quand on était dans la salle d'opération et que la césarienne a été faite, l'infirmière l'a sorti et il a commencé à crier. Et sa réaction à l'infirmière, c'était ah oui. Il a de la voix, hein, vous allez vous amuser. Et nous, tu vois, on comprenait, on disait, ouais, ok. Et effectivement, son estimation initiale n'était pas erronée. Les premiers jours et les premiers mois étaient hyper, hyper compliqués. Hyper compliqués. Il a effectivement, c'est tout con, hein, mais les bébés pleurent, tous les bébés pleurent. Lui, il pleurait beaucoup. Et c'est bête, mais il a une voix qui porte énormément. Nous, on savait rien, on connaissait rien au bébé. Enfin, bien sûr, on a lu, mais l'expérience est différente. Et donc, pour nous, notre expérience de bébé, c'est lui. Et après quelques mois, maintenant qu'on est sorti de la période difficile, quand on entend un bébé pleurer ailleurs, ça nous fait rire, tu vois. C'est genre, mais quelle est cette petite crevette qui essaye d'exprimer son mécontentement? Donc maintenant, ça nous fait rire, mais à l'époque, c'était dur parce que tous les parents le savent. Quand tu as les cris du bébé en permanence, tu deviens fou. 2 minutes, ça va. 5 minutes, c'est moins drôle. 10 minutes, tu dis, oh, bon, c'est pas génial. Au bout d'une demi-heure, t'en peux plus. Et quand, en plus de ça, le cri est tellement fort que ça te perce les oreilles, ça devient, enfin, c'est une, d'une certaine manière, j'ai pas peur du terme, c'est une forme de torture, quoi. Donc, les premiers mois, même si on avait, enfin, c'est ce qui m'en reste. Et ma femme déjà commence à passer à autre chose, mais on était assez assez synchronisés sur ce sentiment au départ, et ça a beaucoup aidé parce que justement, on pouvait se parler et en parler ouvertement, tu vois. Même si, évidemment, qu'on aimait le petit énormément,
bien sûr.
On était, mais ça, c'était difficile. Et
les gens n'ont pas lieu de guide, mais vraiment, t'en parles avec encore dans ton regard, il y a un truc un peu de, à la fois de peur et de oh putain.
Ah mais de terreur,
c'était compliqué, quoi.
C'est l'une des pires périodes de ma vie. J'ai eu pas longtemps avant, un ou deux ans avant, mon père est décédé d'un cancer, déçu d'un cancer qui a été très long et très difficile. Et sur les dernières semaines, les derniers mois, moi j'étais venu à Paris pour filer un coup de main à ma mère qui gérait ça toute seule, c'était hyper compliqué. Et donc, j'ai accompagné ma mère et mon père mourant pendant quelques semaines. Ce qui a été évidemment, là pour le coup, vraiment la chose la plus difficile de ma vie. Mais franchement, sur quelques mois, on va dire 2-3 mois, mon expérience avec le petit était pas loin. Et je pense que c'est en partie parce que j'ai moins la fibre du père, tu vois. Et je crois que ma femme est un petit peu dans la même catégorie. On n'est pas des parents nés. Y a des gens qui sont nés, pas pour faire ça, mais tu vois, ça leur vient naturellement, ou c'est quelque chose qu'ils acceptent beaucoup plus facilement. Et pour nous, c'était pas quelque chose qui était aussi inné. Et donc, je l'ai vécu de manière très difficile, même si je dépeins un scénario apocalyptique, là, évidemment qu'il y avait des moments bien aussi.
Bien sûr.
Mais oui, c'est premier.
C'est bien d'en parler, je pense, parce qu'on a tendance à... On dit effectivement que les premiers mois peuvent être compliqués, peuvent être difficiles, mais il y a assez peu de paroles de parents, d'une manière générale, qui viennent dire, en fait, c'était pas difficile, c'était comme tu... J'aime bien que tu dises, en fait, que c'était une torture, parce que c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure où t'as la sensation qu'on te hurle dans le tympan, ça m'est arrivé, moi, j'ai souvenir une fois avec ma fille, qui était toute petite et qui a fait une crise de larmes comme ça. Alors elle parle, c'était pas tout le temps, tu vois, mais il y a eu un truc en particulier où j'ai vraiment eu la sensation qu'elle était en train de me percer le cerveau avec son cri. C'est d'ailleurs la seule et unique fois que je lui ai mis une fessée sur le...
Ouais.
Tellement ça m'a fait vriller.
Ah ouais,
en fait.
Mais c'est... Tu perds ton toi-même, quoi.
Exactement.
Toi.
Et je me suis dit...
Mais... imagine ça tout le temps,
oui.
Pendant 2 mois ou 3 mois.
Voilà. Non.
Non, mais c'est important d'en parler aussi parce que moi, j'avais une certaine, j'étais frustré que personne m'ait prévenu, tu sais. Et il y a des gens qui m'en avaient parlé un petit peu, qui avaient eu des expériences difficiles aussi, mais on sait pas ça dans la société, on t'en parle pas. Et bien sûr, tout le monde n'a pas la même expérience, soit parce que les enfants sont différents, soit parce que les parents gèrent mieux. Mais quand j'en parle, il y a énormément de parents qui entendent ça ou qui me regardent et qui me disent, ah, mais ouais, mais personne te dit.
Personne te dit parce que je pense qu'il y a un truc de si tu le dis, ça veut dire que t'es un mauvais père. Et tu vois,
un petit peu, oui.
T'as dit tout de suite, j'aime beaucoup.
Ouais,
hein.
Non, mais bien
en
sûr.
En fait, les deux sentiments sont très. Enfin, peuvent coexister, bien sûr, quoi.
Et c'est quelque chose qui est effectivement, je dirais pas jusqu'à dire un petit peu honteux, mais que les gens. Et puis peut-être parce qu'au bout d'un moment, tu oublies. Même moi, je te dis, je m'en souviens, mais c'est plus du tout la même chose. Maintenant, j'en rigole un peu. À ce moment, j'en rigolais pas du tout.
D'où la sérénité.
Mais oui, donc je pense qu'il est aussi important de le dire, et puis ça n'enlève rien à tout ce qui vient après. Et c'est pour ça que je te dis, si on avait fait le podcast il y a un an ou deux, les discussions auraient été un petit peu différentes, parce que maintenant j'ai d'autres choses dont je peux parler aussi, quoi.
Comment ça s'est passé entre vous? T'as l'air de dire que vous étiez plutôt aligné sur l'état d'esprit dans votre couple.
Ouais, non, mais nous c'est bizarre, on est alignés sur tout, quoi. Mmh. On vit une sorte de symbiose étrange. Et là, c'était sans doute le moment où les choses étaient le plus tendues, donc je peux tout à fait comprendre que dans les couples, c'est le moment difficile. Mais oui, sur cette idée que c'est dur, et on comprend pas ce qui se passe, on est déboussolé, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Cette approche de la parentalité où on se disait, mais en fait, il faut apprendre à faire ça parce qu'on n'est pas fait pour. on était vraiment alignés, donc ça nous a énormément aidés, tu vois, on pouvait... C'est des choses qui sont pas faciles à dire ou pour lesquelles tu trouves pas forcément d'écho chez tes amis, chez tes parents, ou peut-être oui, mais peut-être non aussi. Et donc, le fait de pouvoir en parler l'un à l'autre et de se dire, mais j'en peux plus, c'est hyper dur et tout, ça nous a aidé énormément. Ouais.
Et vous avez réussi à ne pas vous engueuler à cause de la fatigue, parce que parfois ça peut être sur d'autres sujets. C'est des trucs, je pense aussi qu'on le dit pas assez, mais les premiers mois, justement, parce qu'avec la fatigue, sont très compliqué d'une manière générale à vivre avec le couple, voire même il y a des couples qui ne s'en remettent jamais, quoi, tu vois, de ces, ouais. de ces moments-là, quoi.
Bah écoute, comme je te disais, nous on est dans une sorte de symbiose bizarre et on s'engueule jamais. Et tu es en ce moment dans mon petit studio dans lequel on a vécu avec ma femme, c'est un studio de 20 mètres carrés, on a vécu pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, on s'est jamais engueulé et on s'est jamais engueulé depuis non plus, même quand on a vécu dans des endroits plus grands. Donc, on est un couple un petit peu particulier. Malgré ça, effectivement, ça a été les moments les plus tendus, je pense. C'est là qu'il y a eu les moments les plus tendus de notre couple. Il y a eu des moments où on était frustrés, fatigués, tout ça, et où on était, c'est jamais, on n'a jamais monté le ton, mais où c'était, on n'était pas d'accord sur des choses qu'il fallait faire et on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Mais ça durait 4 heures, tu vois, et puis après on s'en reparlait, ou au pire un ou deux jours on était un petit peu énervé, mais ça durait pas, non.
Vous avez trouvé la cause de ce qui rendait votre fiston à part le fait qu'il ait du caractère, il y avait pas un truc
Non, bah on a fait, enfin tu t'en doutes, hein, oui, tous les médecins du pays, ouais. Et tous nous disaient non, votre fils va très bien. Alors on pensait les reflux, les oreilles, ouais. La digestion, les machins, on a pensé à tout, mais au final non, je crois que c'était juste qu'il avait besoin, lui c'était particulier, il avait besoin de pleurer avant de s'endormir. Et on a tout testé, hein. Moi, j'ai vécu avec mon fils sur le ventre pendant 1 an et demi. Parce qu'en plus, moi, je travaille de la maison. Je fais mes podcasts de la maison. Et donc, j'étais là tout le temps. C'est une chance aussi par rapport à peut-être d'autres pères dans le régime français. J'ai vécu vraiment toute l'enfance de mon petit à 50% avec ma femme, on va dire peut-être 60 parce que elle donnait le sein, etc. Mais enfin 40-60, mais donc on a cherché beaucoup et puis je l'avais sur moi tout le temps. Et pour s'endormir, au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, je me suis dit mais il y a rien, il va très bien, c'est juste qu'il a besoin de pleurer. Qu'il soit dans le lit, qu'il soit sur moi, qu'on le cajole, qu'on le berce, rien à faire, il a besoin de pleurer pour s'endormir. 10 minutes, 20 minutes, et bon, au début, comme il se réveille toutes les heures, 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes de pleurs pour se rendormir, c'est compliqué. Mais non, il allait très bien, et je me suis fait une raison. C'était pas plus facile, mais je me suis fait une raison. Au bout d'un moment, je me suis dit, il a pleuré, et puis il va s'endormir.
Vous êtes équipé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Boule qui est ou des trucs comme
ça. Ah ouais,
ça.
Non, mais tout. Moi, j'avais mes écouteurs, mais et donc on se relayait, tu vois. Ma femme dormait, moi j'allais dormir. Je faisais le début de la nuit, elle faisait la fin de la nuit et continuer les émissions en même temps sur parce que quand t'as 15 jours de congé paternité et que tu retournes au boulot, je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant. Ou peut-être que certains s'en rendent compte, mais c'est compliqué. Et toi, t'as l'impression d'avoir passé ta journée au boulot, d'être fatigué, tu vois. Tu dis, j'ai bossé. Elle, ça va, elle était tranquille avec son petit toute la journée. Il dort 6 heures par jour. Maintenant, moi, je suis fatigué. Je vais pas en plus m'occuper du petit toute la soirée, tu vois. Alors que moi, je comprends bien ce que ça veut dire. Et oui, pardon, j'ai perdu le fil de ta question.
Non, mais je me demandais comment ça allait, comment ça avait évolué en fait dans le temps. Tu parlais de congé paternité tout à l'heure. Je vais rebondir là-dessus en fait, mais En Finlande, ça se passe comment? Parce que je sais que dans les pays du Nord, d'une manière générale, ils essaient de vraiment très équilibrer.
Ouais.
C'est un vrai débat en France en ce moment. Je sais pas trop si tu suis l'actualité. C'est un vrai, vrai truc, quoi.
Ben, c'est une question qui est très importante. Et je crois que j'ai pas mal changé d'avis, et ma femme aussi, sur la manière de faire en France et en Finlande. Au début, on était très remonté contre le système français où on a que 3 mois pour la femme et 15 jours pour le mari. Parce qu'en Finlande, il y a 1 an pour la femme. Et, enfin, ils ont 2 ans à se partager. Oui. Et généralement, le mari prend presque autant que la femme. Et bien sûr, l'aspect parité me paraît important. Il faut pouvoir se partager la tâche, et ne serait-ce que, comme je le disais, pour que le père comprenne un petit peu. Même si c'est plus dur au début qu'après, donc en fonction de qui prend quand, ça ouais. peut changer la perception. Mais on se disait, tu vois, bah voilà, il faut qu'on ait que la femme ait le temps de prendre un vrai congé paternité, machin. Et peut-être à cause de notre expérience. Le truc, c'est que quand la société est organisée de cette manière, il n'y a pas de système de soutien pour les parents ces premiers mois et cette première année. C'est-à-dire que la crèche en Finlande ne commence qu'à un an et demi, tu vois. Et avant ça, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas il n'y a pas de crèche, évidemment. Moi, quand on a commencé à aller voir la crèche, déjà, quand j'ai parlé de l'idée de la crèche à 3-6 mois, les gens me regardaient avec des yeux, genre, mais mettre un enfant à la crèche à 6 mois, mais vous êtes fou, enfin, qu'avez-vous fumé, monsieur Béja? Et puis, il n'y a pas de nounou, tu vois, c'est pas possible. Donc, t'es obligé d'être là avec ton enfant, au moins, au minimum, 1 an. Et donc, l'effet un petit peu pervers que ça a sur les femmes en particulier, c'est que on s'attend à ce que les femmes interrompent leur carrière pendant 1 ou 2 ans à chaque fois qu'elles ont un enfant. Alors, ils sont par ailleurs très respectueux de l'égalité et de la professionnalité des femmes, donc peut-être que ça compense.
Mais j'imagine que c'est pareil pour les hommes, alors, non?
Oui et non, parce qu'ils encouragent le fait de le faire aussi quand on est papa, mais dans la pratique, ça se fait quand même moins que pour les femmes.
Okay.
Et au-delà de ça, tu vois, c'est presque un état d'esprit. On s'attend de manière pas perverse, mais en France, les femmes, enfants pas enfants, bah, elles bossent, elles sont professionnelles autant que les mecs, quoi. T'as 3 mois à la limite de congé paternité, tu peux prendre plus si tu veux, mais le standard, c'est bah tu bosses, et le fait que t'aies un enfant ne va pas changer, ça va juste être un petit dodane, tu vois, mais ça va pas changer ta capacité professionnelle. Alors que dans les fêtes, mine de rien, il y a un petit peu de ça. Si t'as 2 enfants et que tu prends 1 an et demi à chaque fois, t'as 3 ans de retard, entre guillemets, sur ceux qui ne le font pas, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et donc, ça affecte un petit peu. Donc, je sais pas quelle est la bonne solution, parce qu'en même temps, 3 mois, oui, c'est hyper court. Et je me rends compte que si j'avais continué à travailler, moi, avec juste 15 jours de congé paternité, bah, j'aurais juste pas vécu avec mon enfant, j'aurais raté énormément de choses. Donc ça aurait, même avec les cris et les pleurs, tout ça, tu vois, je pense que j'en aurais, ça m'aurait, bah, j'en aurais pâti, mais ça m'aurait affecté d'une certaine manière sans que je le sache. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut faire 3 mois et 3 mois peut-être, ou allonger un petit peu, on va dire 6 mois et 6 mois, ça serait gérable, j'en sais rien. Mais je suis un petit peu moins remonté contre le système français aujourd'hui, et je suis un petit peu moins, j'idéalise un petit peu moins le système finlandais par ailleurs, quoi.
C'est peut-être aussi parce que t'as cet aspect, on n'est pas des parents nés, non, peut-être que
c'est possible. Ouais. Mais je crois que c'est plus parce que en fait, dans un pays comme dans l'autre, en fait, on n'a pas vraiment le choix. En Finlande, si on veut continuer à travailler avant l'année de congé paternité, bah, c'est hyper dur. En France, si on veut prendre plus que 3 mois, bah, mine de rien, ça va avoir des conséquences. Donc, c'est cette absence de choix, je crois, que j'ai réalisé.
Ok, d'accord. Une fois que c'est passé, ce moment...
On arrive au moment sympa. ça a pris un moment. On a fait le choix, nous, au bout de quelques temps, de le laisser pleurer. ce qui est une... Enfin, on a fait le choix. On n'avait pas le choix. Il pleurait de toute façon, tu vois. Donc,
vous n'aviez pas mis un chiffon dans la bouche, quoi.
Bah, non, quand même pas. Non, mais tu vois, la tétine, on a essayé. Oui. Ça, rien du tout. On a fait des... On lui a fait des massages pour faire remonter les trucs dans les... Enfin, tout. Mais, si tu veux, l'option, c'était pas vraiment de le laisser pleurer ou de pas le laisser pleurer. C'était qu'il pleure sur nous ou qu'il pleure dans son lit. Donc, au bout d'un moment, au bout de, je sais plus, 3 mois, on s'est dit, bon, bah, il va pleurer dans son lit, quoi. Et il a continué à pleurer de moins en moins. Mais, ce qu'on, alors on a lu Père Nous, les machins, oui. Tout. Tu, ce qu'on dit généralement dans ce genre d'expérience, c'est il va pleurer beaucoup un jour, puis un petit peu moins le jour suivant, et au bout de 3-4 jours, il va apprendre à dormir. Et on était vraiment dans cette idée, dans cette optique de il faut qu'il apprenne à s'endormir, tu vois. Il peut pas ne pas savoir s'endormir, surtout que la perspective, c'était... Bah, s'il apprend pas à s'endormir, il va continuer à pleurer jusqu'à 3 ans, tu vois. Il y a des parents autour de nous et des gens dans le monde qui nous expliquent que, bah oui, il doit venir dormir avec nous et puis il pleure tout le temps quand il doit s'endormir parce que si on n'est pas là, tu vois. Et ça, c'était une perspective qu'on pouvait pas envisager. Mais donc ça a pris, lui, c'était pas quelques jours, ça a pris des semaines, quoi. Et c'était là encore une autre forme de torture parce que c'est compliqué même quand t'es fatigué de se dire bah le petit t'appelle il a mal, enfin c'est pas qu'il a mal mais il arrive pas à s'endormir, il comprend pas ce qui se passe. Et vraiment j'ai réussi, quand j'en parle maintenant je me sens coupable.
C'est vrai. Et,
bah ouais un petit peu quand même, mais d'une certaine manière, parce que on l'a laissé pleurer dans le lit, tu vois.
Oui.
Mais d'une certaine manière je me dis en même temps j'ai tellement essayé de l'avoir sur moi et il pleurait quand même qu'on a essayé donc on n'avait pas le choix. Mais quand même, il y a cette culpabilité résiduelle qui reste. Mais aujourd'hui, après des mois, ça a commencé à aller mieux pour, graduellement au bout de 6-9 mois. Et ouais.
C'est long, hein.
Bah, disons que ça allait mieux de toute façon parce que il faisait de moins en moins de siestes.
Ok.
Et donc, moins d'occasions de pleurer pour s'endormir.
Est-ce qu'il faisait quand même ses nuits?
Ça, c'était la chance qu'on a eue. C'est okay. Qu'une fois qu'il s'était endormi, jusqu'à ce qu'il doive se réveiller pour manger ou pour ce que c'était, il dormait quand même assez bien.
Ok. Donc, et ça veut dire que votre bébé, même repu, c'est-à-dire que même après avoir mangé, vous le reposiez et repleurez, c'est
ah
ça?
Mais oui, non, oui. Mais, ah non mais...
Okay, okay. Non, mais je...
non mais c'est vrai que les gens ont tendance à pas bien comprendre
ce que c'était. Je veux pas t'énerver, Patrick. Hein.
Les gens ont tendance à pas bien comprendre ce que c'était, tu sais. C'est qu'on a cherché les causes partout, oui. Et il y avait juste, ou alors on l'a pas trouvé, mais il y avait pas de cause. Tout ce que les gens peuvent imaginer, c'est pour ça, il avait besoin de manger. Non, il avait juste... Bon, bref.
Non, c'est parce que mon expérience à moi, c'est par exemple, mais je leur donnais le biberon la nuit, mes filles, et en fait, les deux, elles se réveillaient, mais vraiment encore à moitié dans le coltard, elles buvaient leur biberon encore à moitié dans le coltard, et puis une fois qu'elles avaient mangé, elles se rendormaient tout de suite, quoi, tu vois. Donc je les reposais, je faisais en sorte de pas les réveiller, je me disais... Allez, hop! Non, là, il était reparti le vôtre.
T'as bien de la chance.
Oui, je m'en rends compte. Hein.
Bon, la nuit, pour un des réveils, ça se passait généralement comme ça. Okay. Ma femme le prenait du couffin, elle le nourrissait et puis s'endormait sur son épaule, elle le reposait, ça allait,
okay.
Généralement. Mais c'était un des réveils sur les combien? 8 de la journée au début, quoi. Donc. Mais oui,
vous avez fini par sortir de cette période-là.
Voilà, complètement. On va pas faire tout là-dessus, mais
non, je sais. Mais moi, ce que j'aurais aimé creuser sur justement cet aspect de culpabilité qui est quand même.
Bah oui, parce que tu sais pas. Et puis t'es responsable de ce petit machin et tu sais pas comment faire pour, parce que tu dis il pleure, c'est qu'il y a un problème. Et si t'arrives pas à résoudre le problème, ben c'est qu'il. Enfin, je sais pas, mais
t'es pas un bon parent.
Bah oui, il y a quelque chose de ça ou. Ou même, t'as envie de faire en sorte qu'il aille mieux et t'y arrives pas. Donc, mais d'un autre côté, ce qui nous aidait à nous sentir moins coupables, c'était que quand il était réveillé, il était juste super content.
Ah, cool.
C'était, il était hyper. Alors, il a toujours eu la volonté de faire ce qu'il pouvait pas faire. Et donc, il était parfois frustré. On a eu une période de genre, je sais pas, peut-être un mois et demi, où il commençait à essayer de ramper et il n'y arrivait pas. Donc, il se mettait à quatre pattes et il essayait de ramper. Il se balançait d'avant en arrière, tu vois. Et au bout de 3 minutes, ça l'énervait. Et donc, il se mettait à crier. Il était... Et donc, c'était tout et il voulait faire que ça. Tu sais, c'était genre, mais regarde, il y a des jouets, il y a des...
Parce que c'est un rien à foutre. De personnalité.
Possible, possible. Mais donc, il a vraiment cette volonté d'essayer de chercher le truc suivant et tout. Et il était assez content. Donc, on sentait qu'il était heureux, tu vois. Au-delà de ces périodes de... Donc, ça nous a aidé. S'il avait été grincheux tout le temps, ça aurait peut-être été plus dur, mais... Mais là, quand il a commencé à se sentir mieux et à faire moins de siestes dans la journée, et puis il a commencé à de moins en moins pleurer. Et, oui, il a commencé la crèche à 9 mois, je crois, donc on avait un petit peu plus de temps pour nous. Donc graduellement, ça s'est amélioré, et puis là, depuis quelques temps, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Comment, avec le temps, tu as réussi à nouer une relation aussi avec ton fiston? C'est un truc qui m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, il a un an et demi, enfin un peu plus d'un an et demi.
Oui, il a un peu plus d'un an et demi, ouais. Mm-hmm. Je dirais que ça a commencé quand il avait à peu près un an. Avant ça, bon, tu le sais bien, on interagit un petit peu, mais bon, les premiers mois, il n'y a rien. Mm. Je me souviens très vividement d'amis qui ont un enfant qui ont 6 mois de plus que le nôtre, et ils étaient venus quand le petit avait 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, et leur petit, je me souviens qu'il souriait quand ses parents allaient le voir, et je me disais, ah, mais un jour
vivement
un jour, non mais même pas vivement, c'était genre tellement loin pour moi, parce que on y revient toujours, mais quand on était dans cette période, chaque jour paraissait être une éternité, tu vois. Et quand les gens me disaient, ah, mais t'inquiète pas, les choses s'améliorent au bout de quelques semaines, quelques mois, je me disais, mais quelques mois, mais vous avez fumé, moi je vais pas tenir 2 heures, tu vois. Mais donc, voir le petit qui souriait, je me disais, un jour, le mien va sourire aussi, tu vois, il va y avoir une... Et donc, ça, c'était le tout début. Et quand il a eu à peu près, un an, qu'il a commencé à dire des mots, qu'il souriait, qu'il rigolait. Les premières fois qu'il s'est mis à rire, effectivement, là, c'était assez magique. C'était quelque chose un sentiment assez unique. Et puis oui, quand il s'est mis à dire des mots, j'étais en France l'année dernière et ma femme m'a envoyé une vidéo du petit qui dit, papa. Et là, c'était genre... c'était dingue, quoi.
J'existe à ses yeux.
C'est ça. C'est ça. Ou au moins, il a compris comment former le son papa quand sa mère lui dit de dire papa. Mais ouais, et puis vraiment, ça a commencé quand il s'est mis à parler. Il s'est mis à marcher, il s'est mis à parler, et puis on interagit. Et là, de plus en plus. Maintenant, il court partout, il comprend tout ce que je dis, mais vraiment tout, quoi. Il parle de plus en plus, il commence à faire des phrases, il se met à chanter. Alors, il y a des moments où ça va plus ou moins bien pour le sommeil encore. Il y a de longues périodes où il s'endort juste de manière immédiatement, tu vois. On le met au lit, on lui chante la chanson, puis on lui dit bonne nuit, et il dit bonne nuit, et il s'endort, tu vois. Il y a des moments où c'est un peu plus dur. Hier, on était en train de se parler pendant le début de la soirée avec ma femme, parce qu'il voulait pas dormir. Et il criait, il disait, je veux plus de chansons en suédois. Et ça a duré 1 heure, tu vois. Mais à chaque fois qu'on essaye d'aller le voir, parfois il y a des crises, à chaque fois on va le voir, quand on lui chante quelque chose, ça va, ou quand on le prend dans le lit, il s'endort pas, il est tranquille, mais dès que... Impossible, il a un caractère mais hyper hyper fort et bref. Mais il y a
les
eu
les chats
une
font
chose.
Pas des chiens, tu sais.
C'est pas impossible. Non, mais ma mère me dit, mais vous étiez des amours. Enfin, moi j'étais un amour.
Mais peut-être que ta mère, elle se souvient
c'est
avec
possible.
Le souvenir qu'elle a aujourd'hui.
C'est possible. Non, mais il y a eu des moments, par exemple, il y a quelques temps, quand je l'emmène pour se coucher en fin de journée, il est fatigué. Et parfois, il me demande de le prendre dans les bras. Donc, depuis le début, tu vois, je le prends dans les bras pour monter. Et depuis quelques temps, depuis quelques semaines seulement, quand je le prends dans les bras, il pose sa tête sur mon épaule, tu sais.
Ah, ça.
Et alors ça, c'est indescriptible, quoi. Tu vois, il pose la tête sur l'épaule et tu te transformes en une sorte de flaque d'émotion, tu vois. Et il y a des trucs, par exemple, quand je le mets au lit, je j'ai hey, un hey, petit hey, peu de quand je le mets au lit, Je lui chante la chanson. Et puis je lui dis, en fait, on a une routine, on lui chante d'abord la chanson deux fois, et puis je lui dis je lui dis bonne nuit, et puis je te chante encore une fois, et puis c'est dodo. Et j'essaye de lui apprendre à lui dire ok. Donc je lui dis, je vais te chanter encore une fois, et puis on fait dodo, ok. Et puis il est en train de s'endormir, il me dit ok. Et ça, tu vois, le fait que je retombe par terre, c'est des petits trucs comme ça, ouais. Mais c'est quand tu réussis vraiment à sentir cette connexion entre lui et toi et qui te donne en retour un petit peu d'affection que ça commence, la relation commence vraiment, j'ai l'impression. Avant ça, c'était un petit peu plus compliqué.
Mais c'est intéressant parce que donc moi mes filles maintenant elles ont 13 et 11 et c'est vrai que c'est de plus en plus assez naturellement en fait physiquement elles s'éloignent même si on continue à se faire des câlins et tout mais tu vois par exemple j'étais à la piscine l'autre jour et je voyais des parents on a fait beaucoup de bébés nageurs tu sais et c'était trop drôle de voir les parents avec leurs bébés contre eux etc et en fait mes filles étaient avec moi donc à la piscine je me disais je suis un peu quand même tu vois un peu nostalgique de cette période là où c'était cool maintenant je pourrais plus faire ça avec elles ça serait chelou quoi mais c'est marrant de profites-en voilà tout ça pour te dire ça.
Oui non mais je suis assez conscient que ça dure que quelques années et qu'après ils commencent à mais c'est marrant on parlait du rapport que ça donne à nos parents aussi et c'est vrai que sur cette histoire de hug de câlin nous on est très tactile dans ma famille depuis toujours mais le fait que le mien commence à faire ça un petit peu plus maintenant qu'on lui dit tu veux faire un câlin à papa il vient il court il te ouais. Voilà mais le fait qu'il le fasse un petit peu plus ça m'a fait réaliser que à un moment il le fera plus et ça m'a fait penser à ma relation avec mes parents ou ma mère en tout cas aujourd'hui et le fait que elle aussi tu vois elle est passée par ça il y a eu une période où on était hyper tactile et on venait lui faire des câlins tout le temps et même si maintenant on s'est jamais arrêté mais j'imagine que d'une certaine manière, ça lui manque un peu. Et elle me dit régulièrement, oui, mais pour moi, vous êtes toujours tout petit, tu vois. Et donc, j'ai encore plus envie, quand on se voit, d'aller lui faire des câlins et d'aller lui redonner un petit peu cette affection physique, vraiment. Même si, encore une fois, on l'a toujours fait, on s'est jamais arrêté, mais encore plus, tu vois. Et ça, c'est un truc que je comprends par ma relation avec le petit.
C'est très intéressant.
N'est-ce pas ?
On va parler de double culture.
Ouais.
Tu disais que est-ce que donc tu parles à ton fils en français et ta compagne lui parle en suédois, c'est ça ?
Ouais. Okay. Oui. Alors ma compagne parle suédois. Moi je lui parle en français. Et pour la crèche, l'environnement c'est suédois aussi puisqu'on est dans une région suédophone de la Finlande. Donc il a les deux langues avec une prédominance du suédois.
Ok. Et toi, tu comprends le suédois, j'imagine ?
Ça commence, oui. Je peux commencer à avoir des conversations avec
les gens. Parce que ça veut dire que sinon ta femme, a des conversations avec ton fils que tu comprends potentiellement pas.
Non, mais c'est même pire. Parfois, le petit vient et me dit des trucs que je comprends pas, dont je suis pas sûr de. Parce que évidemment, il parle suédois, mais c'est pas qu'il parle un suédois hyper carré et littéraire, tu vois. Donc parfois j'essaye de comprendre et ma femme parfois comprend pas mais quand elle comprend pas elle sait qu'elle comprend pas ce qu'il dit en suédois
oui.
Moi quand je comprends pas je sais pas s'il dit des trucs qui sont en suédois mais que je comprends pas ou si c'est des baragouinements tu vois donc j'essaye de lui parler français et de lui faire parler français il comprend comme je disais très bien le français mais il parle plus suédois, parce que bon, évidemment, il y a une langue qui prend la priorité, et j'imagine que le français va arriver un petit peu plus après, même s'il parle un petit peu. Mais là, du coup, quand je suis arrivé, je suis allé à la Fnac, je me suis dit, je vais acheter 2-3 bouquins avec des histoires, des chansons, tu vois, parce qu'il commence à chanter en suédois et tout. Et évidemment, je suis revenu avec une dizaine de trucs au lieu de deux, parce que je me suis toujours senti français, mais j'ai un historique assez international. Moi, je suis né au Liban. Ma culture est française d'adoption, mais au niveau de la famille, on a quand même un mélange assez important. Et donc, je me suis jamais senti autant français. Même pas que quand depuis que je vis en Finlande, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu au Moyen-Orient, mais que depuis que mon fils a ces deux cultures. Donc, bon, j'ai toujours aimé les pains au chocolat ou la baguette ou le bon fromage, tu vois. Mais maintenant, quand mon fils mange un pain au chocolat, je me dis, voilà, c'est bien, tu vois, c'est culture française, le fromage, c'est
prends
très bon.
Prends donc un morceau de fromton.
Mais c'est ça, mais exactement. Donc oui, je pousse un petit peu plus, mais c'est normal, hein, la culture et la langue française avec lui.
Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est quid si demain ton fiston tombe sur ce podcast dans 10 ans.
Ouais.
Je ne sais pas comment il trouvera ça sur Internet.
Bah, écoute, Internet a tendance à avoir la mémoire longue, donc...
ça sera peut-être en MP3, ça sera peut-être directement implanté dans ton cerveau, on ne sait pas.
Possible.
Tu le téléchargeras directement dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là?
Bon, je pense que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant parle de soi-même. Je dirais, écoute bien ce que j'ai dit au début et sois prêt. Et puis ce que j'ai dit à la fin est important aussi. Je sais pas ce que... Tu sais, on est vraiment au début. Donc ce que je dirais, c'est que j'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire ensemble. Et c'est un sentiment auquel je pensais pas avant. Et là, vraiment... J'ai hâte de lui apprendre des choses, de lui transmettre des choses, qu'il ait sa première manette de console dans les mains, tu vois, des trucs importants, des trucs vitaux pour former la personnalité d'un homme. Ouais, j'ai hâte, quoi.
T'es content d'avoir eu un garçon? Est-ce que, par exemple, vous avez dans le projet de faire un deuxième enfant pour éventuellement essayer d'avoir une fille, je sais pas. Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Bah non, je suis pas content d'avoir eu un garçon. Moi, je voulais une fille. Évidemment. Non, mais oui, bien sûr. Moi, à vrai dire, oui, j'aurais bien voulu une fille.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un sentiment. Oui, quand on m'a annoncé que c'était un garçon, j'étais un petit peu genre, oh, merde, j'aurais. C'était bizarre parce que j'avais dans mon image, peut-être le côté paternaliste, justement, j'avais toujours l'idée que si j'avais eu un enfant, j'y pensais pas beaucoup, donc c'est pas non plus un truc fondateur de ma personnalité, mais je me disais, ah, ça serait une fille, et j'aurais mes filles, tu vois. Et quand j'ai appris que c'était un garçon, ça m'a affecté plus que j'aurais pensé, mais c'était un truc très, très superficiel. Ça a pas vraiment duré très longtemps, et maintenant, je suis. Bah, c'est lui, quoi. Si ça avait pas été lui, il aurait pas été là. Donc, forcément, ça aurait été, ça m'aurait pas plu. Un autre, peut-être, un moment. on va dire que l'expérience de départ a été suffisamment traumatisante pour que, tu vois, et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a plein de gens pour lesquels le premier est assez facile et donc qui se disent, bah cool, en fait, c'est pas dur. Allez hop, on va y aller, deuxième direct, comme ça c'est fait. Et parfois, le deuxième est beaucoup plus compliqué. Et donc, t'as les deux en même temps, dont le deuxième qui est dur. Et c'est un petit peu le piège. Donc, nous, on s'est dit, bah, on va attendre que le premier soit un petit peu autonome. Et à ce moment, on y réfléchira. C'est pas impossible. C'est beaucoup plus dans notre esprit qu'il y a un an.
Oh.
beaucoup plus dans le sens où ça y était pas du tout et maintenant ouais. Ça y est un tout petit peu. Mais je commence à me dire que peut-être. Alors qu'il y a un an, je t'aurais dit, mais même pas en rêve. De quoi tu parles? Et pareil, un petit peu pour ma femme. Ma femme a généralement 6 mois d'avance sur moi, sur la relation qu'elle a avec le petit et sur l'image en général de la parentalité.
Comment t'expliques ça? C'est intéressant.
Bah, je crois qu'elle a eu 6 mois de plus ou 9 mois de plus avec lui. Okay. Tu vois, pour moi, c'était très. C'est ce qu'on dit souvent. Le père a les 9 premiers mois du père, c'est un petit peu la gestation pour le père, tu vois. Les 9 premiers mois de l'enfant. Donc, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Mais donc, on y pense, mais c'est pas encore. Maintenant, on verra quand le petit sera plus autonome, quoi.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Fabrice.
C'était trop bien.
Mais super sympa.
À bientôt.
Merci à toi.
Salut.
Ciao.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast.
Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.